Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Elsa.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir vous parler depuis le temps que je vous écoute et en même temps, hein, je voudrais féliciter Paul et Caroline pour leur accueil bienveillant et vraiment leur suivi. Ah oui, parce qu'ils suivent bien les auditeurs.
Ils le méritent. C'est vrai.
Ouais, ouais.
C'est gentil de le dire.
Hein. Il faut pas changer.
Ah,
hein.
Je ne compte pas changer. Non. Je suis très bien entourée.
Il faut les conserver.
Oui. Bah écoutez, tant qu'ils me supporteront, je les garde avec moi.
Je pense que ça doit être réciproque. Hein.
Ah oui, ça va.
Oui,
on s'entend bien. On rigole bien aussi.
Oui, une bonne ambiance, c'est extraordinaire au travail.
Ah oui, c'est
moi,
essentiel.
C'est ce que j'ai vécu quand je travaillais et c'était formidable.
Et alors aujourd'hui, donc, vous êtes à la retraite, mais vous avez une retraite très active.
Oui, parce que...
Parce que vous aussi, c'est le témoignage en fait de Daniel.
Voilà.
Je crois hein, qui a beaucoup fait réagir Daniel et dans le il y a eu beaucoup de réactions et j'avoue que j'ai été touchée par les réactions très positives qu'il y a eu parce qu'évidemment quand on parle du milieu carcéral
il y a beaucoup,
mais franchement j'avais pas filtré hein, les messages c'était quand on parle du milieu carcéral il y a beaucoup de préjugés beaucoup de dire bon on se dit bah après tout s'ils sont là-bas c'est qu'ils ont bien mérité et puis voilà.
Alors,
on
veut pas trop s'y régulièrement.
Et il y a eu vraiment des témoignages très bienveillants, très positifs. Bon, il faut dire que la personnalité de Daniel aussi était quand même assez incroyable parce que c'est vraiment une rédemption. Enfin, il y a quand on parle de réinsertion, bon, toutes les réinsertions ne se passent pas comme ça,
non,
malheureusement. C'est un bel exemple.
Mais il y en a.
Il en existe.
Voilà, c'est ça.
Oui. Il en existe. Et moi, ce que j'ai aimé dans son témoignage, c'est qu'en plus, il assumait. Il assumait ses actes. Il n'était pas plaintif à dire, j'ai pas bien. Non, il assumait totalement. Il nous parlait de l'après, de sa vie aujourd'hui. Il était dans le présent. Il n'y avait pas de rancœur. Il n'y avait pas d'amertume. Il nous parlait. Et en ça, c'est vrai qu'il nous faisait découvrir un univers que vous connaissez bien, Elsa, puisqu'en fait, vous êtes bénévole en milieu carcéral.
Oui, alors moi, je j'assume deux sortes de bénévolat. Enfin, alors le premier dans lequel j'ai le plus d'expérience, puisque ça fait déjà depuis 2009, hein, donc
en effet.
Ça fait déjà un certain nombre d'années, où je suis bénévole à l'accueil des familles en attente de parloir.
D'accord.
Alors bon, faut peut-être que je resitue parce que bon, tout le monde ne connaît pas le processus des familles qui viennent visiter leurs détenus. Donc pour un petit peu voir dans quel environnement on fait ce bénévolat.
Oui.
Donc nous avons une maison d'accueil, une maison, hein, c'est une maison qui est en face le centre de détention.
D'accord.
Et donc dans cette maison, nous avons un bureau et c'est là que nous accueillons les personnes les familles souvent ou les amis qui viennent voir leurs détenus pour une heure de parloir, hein, puisque chez nous c'est pendant une heure.
Vous les accueillez avant ou après ?
Avant. Alors avant et après, on va dire.
Oui,
mais principalement avant, parce que si vous voulez, quand une personne vient voir quelqu'un de sa famille ou des amis détenus, bon, il doit déjà avoir un permis de visite. Hein, ça se fait pas comme ça. Il vient pas comme
bien
ça
sûr.
Du jour au lendemain. Oui. Voilà, j'arrive. Hein.
Oui.
Il a fait les démarches pour avoir un permis de visite et ensuite donc il doit prendre rendez-vous pour un parloir de telle heure à telle heure, tel jour. Et nous sommes une association, disons, qui accueillons en attente, parce que le parloir dure une heure, hein, à l'intérieur, mais avant, il doit arriver à peu près une demi-heure avant, parce qu'il y a des formalités administratives à remplir avec le surveillant, et donc pendant cette demi-heure, voire quelquefois beaucoup plus, parce que parfois vous avez des gens qui viennent de très loin et qui arrivent par le train et ils ont un parloir, par exemple, à 16h et ils sont là à 14h. Parce que, effectivement, le train est arrivé et
bien
en attendant, ils doivent patienter quelque part.
Il doit y avoir beaucoup de, enfin, il doit y avoir de l'appréhension.
Ah
de
oui,
l'angoisse.
Oui. Alors là, donc quand ils arrivent, nous sommes là pour les accueillir, évidemment. Oui, et oui. Puis bon, on a un petit bar, donc on offre un café, on offre du sirop, des gâteaux pour les enfants, parce que bon, hélas, il y a beaucoup de personnes, de conjointes ou d'amis de détenus qui viennent avec leurs enfants de tous âges. Hein. Et donc nous sommes là, nous, pour les accueillir et les informer. Bon, si elles demandent des renseignements, par exemple, elles apportent la plupart du temps, elles apportent du linge aux détenus qu'elles ont préparé.
Et oui.
Et il y a une feuille évidemment à remplir. Alors quelquefois, on aide à remplir la feuille de linge parce que il y a également aussi des personnes qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas écrire. Mmh. Donc, bah, on les aide aussi à faire ce genre de démarche.
Et ça, cela existe, enfin, un peu partout en France.
Oui, oui, oui.
Ces maisons d'accueil.
Voilà, les maisons d'accueil sont regroupées d'une façon nationale, hein, de façon. Et effectivement, ça existe à peu près dans tous les départements. Enfin, peut-être pas tous les départements, hein, mais un grand nombre de départements, oui.
Parce que ce qui est terrible dans la prison, dans l'incarcération, c'est que ça éclabousse toute la famille aussi.
Voilà.
Vous parliez des conjointes, vous parliez des enfants.
Voilà,
c'est lourd à porter.
Dire. Voilà. Ouais. Si vous voulez, la famille n'est pas en. Souvent, ils nous disent nous ne sommes pas en prison, puisque nous sommes dehors, hein, mais nous y sommes quand même intérieurement. Dans notre tête, on est quand même en prison. Parce qu'il y a vraiment des dommages collatéraux importants. Qui se font qui éclaboussent toute la famille en fait parce que bon déjà la famille souvent culpabilise bon quand ce sont des mères elles disent mais comment j'ai raté quelque chose comment il est arrivé dans une prison enfin il y a des gens qui se posent beaucoup de questions quand même
bien sûr oui ben et on les comprend.
Et c'est normal,
dites
voilà.
Comment, oui.
C'est une réaction tout à fait normale.
Oui.
Ensuite, il y a la honte aussi par rapport à la propre famille, aux voisins, à tout l'entourage. Hein. Moi, je me souviens d'une maman qui venait voir son fils et elle avait été obligée de changer sa fille d'école, enfin la sœur du jeune homme qui était détenu, parce que à l'école, elle était harcelée. On lui disait, t'es la sœur du taulard. Enfin. Et la pauvre gamine qui avait 15 ans ne pouvait plus rester dans ce collège.
C'est plus possible.
Donc
oui, elle-même, c'est ça. Elle était stigmatisée en tant que sœur.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est.
Et pour les enfants aussi, dites, parce
alors,
que c'est ça,
enfants,
on est là. C'est l'enfant du taulard, parfois. Enfin, il y a quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Où les enfants paient pour les fautes des parents, enfin.
Exactement,
Parmi les enfants que vous accueillez, parce que comme vous dites, il y a tous les âges. Alors les plus petits, bon, c'est pas forcément là où ils vont s'exprimer le plus, ou à travers des dessins peut-être d'ailleurs, parce que quand ils entendent, est-ce que dans les dessins vous retrouvez des choses.
Disons qu'on peut avoir des bébés, puis hein, qui ont quelques mois, jusqu'à. Alors en général, on a remarqué une chose les enfants viennent jusqu'à l'âge de, on va dire, presque 14 ans. Un peu avant l'adolescence. Hein. Après, ils viennent rarement. Ils viennent beaucoup moins. Hein. Ils viennent, la plupart, c'est souvent entre 3 et 10 ans, hein, la majorité. Parce qu'ils ont besoin de voir leur père,
et
malgré
tout. Mais à l'adolescence, il y a une profonde remise en question.
Mais à l'adolescence, voilà, ils ont autre chose à faire. Hein. J'imagine que venir passer un dimanche après-midi ou un samedi après-midi dans un parloir, ils ont des copains, en fait, ce qui est normal, hein, les copines. Mais quand ils ont
peut-être besoin de se raccrocher à cette vie aussi
normale,
entre guillemets, hein, évidemment.
Alors que contrairement aux plus jeunes, eux ont besoin de faire. Parce que bon, ils font des dessins pour leur papa, ils nous les montrent. Je t'aime papa, avec des cœurs. Et nous, et même pour nous aussi, les accueillantes, ils nous donnent des dessins. Tiens, c'est pour toi. Parce que, au bout d'un moment, quand on a l'habitude de les voir régulièrement, ils s'attachent,
à
nous.
Bien sûr, bien sûr. Et vous à eux, certainement.
Et nous, voilà, et vice versa. Hein, c'est parce que souvent, il y a aussi quand même un manque d'affection parfois. Je ne veux pas dire que la maman les rend malheureux, mais c'est pas évident.
Mais la maman est pas forcément très heureuse non plus.
Et puis la maman n'est pas toujours bien. Voilà, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc ça rejaillit en fait.
Pour les adolescents, c'est intéressant ce que vous me dites finalement. Oui, au-delà de 13-14 ans, vous les voyez plus. Mais c'est un âge où normalement on remet en question ses parents, l'autorité. Oui. On questionne, on interroge. Là où avant, avec les petits-enfants, c'est plus simple. Ils sont dans le manque.
Voilà.
Et donc, ils font des dessins. Ils sont... Mais un ado, il va questionner.
Voilà.
Et il peut y avoir même une période, un moment de rejet.
Oui.
Qu'est-ce qui, vous me parliez de cette dame, cette maman qui, au fond, avait dû changer sa fille, la sœur d'un détenu de lycée, parce qu'elle était harcelée en tant que sœur du tolard. Il y a d'autres, j'imagine qu'il y a beaucoup de tranches de vie comme ça, d'instants qui vous ont marqué. Vous avez en tête quelques choses, des scènes comme ça à partager avec nous. Vous parliez de la honte, on entend aussi la souffrance des familles, finalement.
Surtout la première fois, parce que la première fois qu'ils viennent, ils se demandent où ils vont arriver. Quand des personnes, on essaie de les mettre à l'aise le plus possible. Et puis au bout d'un certain temps, ils nous connaissent, on a des échanges évidemment réguliers. Et quand le détenu, heureusement, ressort, parfois au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça dépend de la peine, c'est là qu'ils nous disent « Oh là là, heureusement que vous étiez là, parce que la première fois qu'on est arrivé, on pensait qu'on allait être reçus comme des chiens. » Enfin, même si les chiens aujourd'hui sont chouchoutés, mais là, c'est vraiment des...
Oui, comme si l'opprobre était sur eux aussi.
Voilà.
Au fond, on allait les traiter.
C'est
intéressant, cette notion d'enfermement aussi. Ils ne sont pas, ils ont la liberté, mais il y a une prison intérieure aussi. Il y a une tâche, il y a quelque chose qui rejaillit malheureusement sur eux.
Oui.
Est-ce que vous, l'univers carcéral, vous le connaissez? Est-ce que vous êtes allé voir, parce que au fond, derrière les murs, parce qu'il paraît que ce qui est frappant, c'est justement tous ces écrous, le bruit aussi, déjà les cris, mais aussi tout, chaque fois ces portes qu'on doit ouvrir fermées, enfin ce quelque chose d'oppressant. Vous êtes rentré dans l'intérieur?
Oui, parce qu'en parallèle, j'en parlerai un peu moins, parce que je vous dis, j'ai un peu moins d'expérience, mais disons que je rentre également à l'intérieur en détention pour la lecture avec des détenus. C'est une association qui permet d'aider les détenus à se remettre dans la lecture, ou ceux qui aiment lire, et donc un bénévole les assiste.
Vous leur faites la lecture ou vous...
Non, ce sont eux qui lisent. Ils ont un livre, il y a un catalogue. Ils choisissent un livre dans le catalogue. Nous prenons le même livre, puisque ce sont eux qui ont choisi. Et en parallèle, chacun lit de son côté, et on se rencontre à intervalles réguliers, en fonction de la vitesse à laquelle le détenu lit. Et on se rencontre, et puis on parle du livre, on parle aussi d'autres choses, on parle pas forcément que du livre.
Oui, je comprends, mais c'est un biais, c'est un médiateur. Enfin, là, vous parlez de votre ressenti à travers le livre, et ça amène à parler aussi de quelque chose. En même temps, les livres, c'est le meilleur moyen de s'évader.
C'est un moyen aussi eux de s'évader, entre guillemets.
Mais intérieurement.
Et à la fin, si vous voulez, ils doivent faire une fiche de lecture qui leur est remise, et parfois on les aide parce qu'il y a des questions sur le livre, des questions sur l'auteur, et ils découvrent plein de choses, parce qu'ils n'ont pas tous certains ont des niveaux intellectuels très élevés, d'autres moins, selon ce qu'ils faisaient auparavant, avant de rentrer.
Bien sûr.
Ils découvrent beaucoup de choses au travers de ça.
Et alors, vous qui êtes bénévole, donc on vous dit, voilà, aujourd'hui, qui vous dit tel détenu est d'accord pour aborder un livre avec vous. Vous ne connaissez rien du motif de l'incarcération.
Ah non,
c'est
non,
ça,
non.
C'est la condition.
Non, on n'a pas à savoir. Alors, ils peuvent
être perturbant.
Le dire.
Oui, c'est voilà. Ça. S'ils vous le disent, d'accord, ça doit venir.
Ils peuvent le dire, certains n'en parlent jamais. Hein. C'est un peu comme les familles qui viennent. Parfois, on sait ce que le fils ou le conjoint a fait comme bêtise. Souvent, on ne le sait jamais.
Oui. Hein.
Bon, ça, on n'a absolument pas... On doit rester très neutre. Hein. C'est-à-dire que cette posture de bénévole, on doit être proche et en même temps distant. Si vous voulez, parce que déjà tout reste anonyme. Bon, ils savent nos prénoms. Bon, ça c'est le prénom, c'est pas un problème. Mais autrement, par exemple aux familles, aux détenus, on n'a pas donné notre numéro de téléphone, par exemple. Hein, c'est un exemple comme ça. Hein, on n'a pas, on doit rester quand même
dans une certaine distance de sécurité aussi, enfin.
Et de comme, sécurité, bien
comme,
sûr.
Je sais pas, un autre exemple, des écoutants à SOS Amitié,
oui,
on donne un prénom, mais souvent les gens disent, parce qu'ils ont, ils se sont sentis bien, en confiance, aimeraient avoir le numéro de l'appelant, il faut se préserver aussi, enfin. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la relation, elle peut fonctionner, parce que sinon on bascule dans un autre niveau de relation qui n'est plus, ou thérapeutique, ou... Mais je peux me permettre de vous demander, Elsa, comment vous en êtes arrivée justement à être bénévole en milieu carcéral, parce que c'est pas banal. C'est-à-dire que on sait que les Français sont très généreux, s'investissent beaucoup et donnent aussi beaucoup dans les associations, dans l'humanitaire. Mais l'univers carcéral, il faut le dire, c'est pas celui qui est le plus choisi.
Ah non, pas du tout, parce que justement, on manque énormément de bénévoles. Hein,
et même
moi, quand j'en parle, parfois on me regarde avec des grands yeux, quoi, en disant, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, quoi. Tu vois que des gens pas bien, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, disons que au départ, je voulais faire du bénévolat. Parce que à un moment donné, je travaillais encore, mais j'ai eu du temps de libre, hein, principalement le week-end.
Ouais.
Alors le bénévolat, du bénévolat à faire le week-end, c'est pas évident. Alors que justement, j'avais une amie qui faisait du bénévolat, qui était accueillante justement dans le centre de détention où je vais maintenant. Et elle m'a proposé, j'ai dit « Oh, j'aimerais bien faire un peu de bénévolat ». Et puis, le milieu carcéral m'a toujours intrigué. Si vous voulez, de par les films, les romans, j'ai toujours été un peu intriguée. C'est une espèce de curiosité, mais pas malsaine, hein, pas pour... s'intéresser à la vie de personnes dont la vie a été cabossée, quand même, et pourquoi.
Pourquoi
et comment
ça bascule.
Ils en sont arrivés là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après. Enfin, si vous voulez, c'est toutes ces questions que je me suis posées. Moi, je me suis dit, j'ai eu une vie normale, sans problème, sans gros problème particulier. J'aimerais quand même me rendre compte pourquoi on en arrive là à être enfermé pendant des années.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces trajectoires de vie? Qu'est-ce qui a pu se briser?
Et comprendre pourquoi. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. Et que je ne regrette pas, hein, parce que c'est extrêmement enrichissant, en fait.
Certainement. Daniel nous disait qui est sorti au bout de 30 ans de prison, nous disait la prison c'est une micro-société en fait.
Ah oui,
on rencontre de tout. On rencontre. Il prenait des métaphores animales, hein, des prédateurs terribles,
des
phoques.
Il
dit on rencontre aussi des braves types.
C'est ça. On rencontre de tout, hein. Et dans les familles, c'est la même chose. Moi, j'ai accueilli des familles du plus riche au plus pauvre. Si vous voulez, des gens qui socialement étaient avaient une vie sociale, familiale, financière très élevée, et d'autres qui étaient dans une précarité ou dans des situations extrêmement défavorables, enfin à tout point de vue, quoi. Alors, c'est souvent pas par hasard que j'ai remarqué que quelqu'un entre en prison. C'est pas par hasard, mais il y a aussi des types bien qui vont en prison. Hein. Je pense qu'on peut tous y aller.
Mais c'est... Daniel, moi, je trouve, on l'écoutait. Daniel, c'était quelqu'un de bien. Il oui, a commis, oui. Il le dit lui-même, il a commis
oui,
à un moment quelque
sûr.
Chose de grave,
voilà.
Évidemment. Il a payé.
Voilà.
Mais il y a des types aussi qui sont, et des femmes d'ailleurs, des êtres humains qui sont pas bien et qui sont en liberté. Hein.
Enfin, tout à fait, ah pas, bah bien sûr, bien sûr, tout à fait.
Et dans, en fait, qu'est-ce que, justement, vous vous posiez des questions, mais de bonnes questions autour de cet univers ça, qu'on connaît peu et où on a beaucoup de préjugés, où on comprend aussi que finalement, ben oui, vous manquez de bénévoles parce que soit ça peut fasciner et c'est pas bon non plus.
Voilà.
La fascination. Ou au contraire, il y a de la répulsion parce que ça fait peur.
Voilà.
On se dit,
voilà,
j'ai pas envie d'aller me mettre au milieu de gens.
Voilà. D'ailleurs,
d'être
quelquefois, on me dit, hein, quand je rentre en détention, même avec les familles, on me dit, mais t'as pas peur? Je dis, non, j'ai pas peur, non.
Oui.
D'abord, bon, il y a des sécurités, hein. Mm. Les surveillants sont là. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage aussi à tout le personnel de l'administration pénitentiaire parce que, que ce soit les surveillants, les conseillers d'insertion, de probation, la direction des établissements, moi, je les admire aussi, hein, parce qu'ils font un travail pas facile. Mm. Et eux aussi sont souvent malmenés.
Oui.
Et moi, j'avoue que j'ai toujours une bonne relation avec les surveillants que l'on côtoie, forcément, au bout d'un certain temps, on les connaît un petit peu et on parle un peu entre deux parloirs. Mais il faut rendre hommage aussi à tout ce personnel.
Vous avez raison, parce qu'on en parle peu.
Parce qu'on en parle peu, voilà, c'est ça. Et eux aussi ont leurs difficultés avec les détenus, mais ont aussi de bons rapports. Hein. Il y a de tout, hein. Mais je crois que c'est, de toute façon, c'est comme dans la société extérieure. Hein. Il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout, et voilà.
C'est vrai que, évidemment, j'imagine, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui disent quoi, des gens bien qui sont en prison. Et c'est là où parfois il y a... Mais je trouve que c'est encore Sophie qui en parlait le mieux.
Oui,
quand
voilà.
Elle nous disait, au fond, à un moment, évidemment, elle a été victime d'un braquage, elle a vu la mort en face et elle ne voyait que l'acte et la monstruosité de
tout
l'acte qu'un autre être humain puisse, au fond, vouloir lui ôter sa vie.
Oui, moi, j'étais tout à fait d'accord avec elle.
Et après, elle a dit quelque chose, elle dit, il y a eu tout un cheminement où elle a vu l'humain. C'est-à-dire que derrière, en fait, ça nous rassure tous de penser et les monstres. Même on utilise ce terme, les monstres.
Voilà.
Parce qu'il y a eux, il y a les monstres, et il y a nous, les gens normaux.
Voilà.
Et en fait, que ces monstres qu'on appelle monstres, ce sont des êtres humains.
Voilà,
qui ont commis
ça.
Des actes monstrueux.
Voilà, c'est ça. Moi, je dis, c'est pas des, c'est bon, on dit des monstres, mais ils ont commis des actes monstrueux. Et il y a toujours un humain derrière. Il y a toujours un homme ou une femme. Bon, on n'a pas, il y a très peu de femmes hein, en milieu carcéral. Hein, je crois que ça représente 4% de la population carcérale, les femmes. Mais il y a toujours un humain.
Oui.
Toujours.
Ça. C'est ça.
Et Sophie l'a très bien expliqué d'ailleurs.
Oui, mais je trouve que c'était mais je la remercie tout comme Daniel parce que on apprend beaucoup et tout comme avec vous Elsa et d'ailleurs il y a Sergio qui dit c'est passionnant votre témoignage très enrichissant.
Ah ben c'est gentil Sergio, oui c'est qu'il intervient souvent.
Ah oui et il dit merci de ce que vous faites Elsa. Il y a aussi l'homme au camélia qui dit à vous écouter on a l'impression d'entendre la chanson d'Enzo Enzo juste quelqu'un de bien.
Ah oui,
et vous êtes quelqu'un de bien aussi.
C'est très gentil. Alors là, vraiment, je suis touchée, là.
Alors, il y a Frésia aussi qui dit « Moi, j'aurais du mal avec ceux qui ont torturé ou tué des enfants. » Évidemment, là, on touche.
Oui,
évidemment. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas savoir.
Il vaut mieux pas le savoir, exactement. Exactement. Bien sûr, non, mais c'est tout à fait normal.
Bien sûr,
mais
c'est compréhensible.
Et ça fait, oui, non, mais on peut comprendre. Hein. Parfois, moi aussi, quand je pense aux victimes. Hein,
oui.
Mais bon... C'est malheureusement donc la société est comme ça, quoi.
Il y a cette belle phrase d'André Malraux qui dit « Avant de juger, il faut comprendre. »
Voilà,
et
voilà.
Et quand on comprend, quand on a compris, on n'a souvent plus envie de juger.
C'est ça.
Et ça ne veut pas dire excuser, encore une fois.
Voilà,
parce
voilà,
y a
tout
des,
à fait. Voilà.
Y a, vous le dites, il y a un humain derrière. Et Sophie voilà. nous en parlait aussi. Paul, je vois que ça, j'imagine que le témoignage d'Elsa fait beaucoup réagir.
Oui, y a, en particulier la réaction de Marie-Claude qui a son fils qui est en ce moment à l'étranger en prison. Ouais. Donc c'est une très grande douleur pour elle. Pas de visite, évidemment, depuis 3 ans, seulement une communication téléphonique de 5 minutes par semaine. Elle vous dit quelle belle manière d'aider dans les prisons, Elsa. Merci, bravo à vous. Je voulais juste rappeler la fondation M6 qui lutte contre la récidive et qui permet la réhabilitation des personnes détenues en donnant un accès à l'éducation, la lutte contre l'illettrisme. Et justement, on parle d'association. Si vous êtes une association, si vous avez un projet, cette fondation, elle finance des projets, des associations qui vont dans ce sens. En ce moment, des moyens, on en a besoin. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos projets. Et si vous voulez entendre le podcast de Daniel, le témoignage de Daniel, vous pouvez l'entendre sur l'appli RTL.
Merci beaucoup pour toutes ces infos, Paul. En tout cas, c'est vrai que... chapeau pour ce que vous faites, Elsa, et merci de nous en avoir parlé ce soir. Et l'univers carcéral a aussi besoin de bénévoles.
Voilà. Ça
bien
voilà.
Aussi
et
de,
malheureusement,
de nous rappeler.
En ce moment, on est au chômage entre guillemets, puisque avec le confinement, on peut rien faire.
Et oui. Et l'enfermement.
Je pense souvent
est
à toutes ces familles, à toutes ces personnes qu'on ne peut plus rencontrer.
Je comprends. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir appelé pour nous parler de votre engagement. Au revoir, bonne soirée.